Bonsoir. On va commencer si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicole Boussegou, qui est psychanalyste à Toulouse, qui a publié récemment un livre qui s'appelle Réelle des femmes. Et Patrick Vallas, psychanalyste à Paris. Je passe immédiatement la parole à Nicole Boussegou, ça va aller. Qui nous parlera de performative de la parole et apophantique du dire. Et ensuite, Patrick Vallas nous parlera de je ne sais pas quoi dire.
Bon, effectivement, c'est difficile de dire. Bon, un titre un peu ronflant peut-être, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. Dans sa théorie de la parole, Lacan a assez tôt fait l'usage de la distinction entre sujet de l'énoncé et sujet de l'énonciation. Dès son premier numéro de la revue La Psychanalyse, il fait appel à Émile Benveniste, le théoricien de l'énonciation, qui distingue le locuteur et la locutaire, l'énonciateur et le destinataire. Lacan a construit les deux étages de son grade du désir sur cette distinction entre énoncé et énonciation. L'usage du substantif « dire » semble plus tardif. On le repère dans Radiophonie, avec la définition que Lacan donne alors de l'inconscient qui s'articule de ce qui de l'être vient au dire. Cela sera repris et amplement développé dans Encore et dans l'étourdi. Ce qui est propre à l'être vrai, c'est le dit. Et le propre du dire, c'est d'exister par rapport à quelque dit que ce soit. La thèse de Lacan, formulée dans Encore, page 25, est que le dire, la venue du dit au dire, c'est là l'épreuve où, dans l'analyse de quiconque, si bête soit-il, un certain réel peut être atteint. Un réel, un impossible ou un insensé peut être atteint à cause de ce qui vient au dit, comme conséquence logique. Le dire étant seul à pouvoir témoigner comme existant au dit de ce réel. Parler de témoignage, dire que de l'existence, seul le dire est témoin, introduit la notion d'acte dans la parole. C'est ainsi que Lacan définit l'acte en 69. L'acte a lieu d'un dire et dont il change le sujet. C'est l'aléa iacta est de Jules César, franchissant le Rubicon, qui change le cours de l'histoire. Marchons n'est acte qu'à ce que ça fasse, que j'y arrive, se vérifie en lui. Mais comme dit le proverbe italien, trai dire et fare, c'è di mezzo il mare. Entre le dire et le faire, il y a la mer des paroles en l'air. Là, ce n'est plus vers Benveniste qu'il faut se tourner, c'est vers Austin, le philosophe du langage ordinaire. Il est le théoricien des actes de parole exposés dans Quand dire, c'est faire, titre du livre où sont traduites ses 12 conférences à Harvard en 1955. Austin aboutit à l'idée que toute énonciation digne de ce nom est un acte de discours performatif qui nous permet de faire quelque chose par la parole elle-même. Il en arrive à soutenir que chaque fois que nous disons quelque chose, nous produisons non seulement des actes de dire quelque chose, mais des actes de faire quelque chose. Le fait de dire quelque chose produit des effets, des conséquences chez les autres ou chez soi. C'est ce qu'Austin appelle l'acte perlocutoire. Par exemple, si je dis « Maintenant, vous allez rentrer chez vous », Je puis vous soulager, vous convaincre, vous irriter, vous faire partir, vous faire rester au moyen de cette parole. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est l'acte illocutoire qui est produit en disant quelque chose. En disant « maintenant vous allez rentrer chez vous », le fait de le dire peut avoir la valeur d'un ordre, d'une affirmation, d'une conjecture, d'une permission. La force illocutoire d'une parole ne dépend pas de ses effets, de ses conséquences. Elle dépend d'un ensemble de conventions humaines, sociales, discursives, qui font que dire telle chose dans tel contexte revient à accomplir tel dire illocutoire. Cela vaut pour des énoncés réflexifs, comme « je te baptise » ou « je vous marie ». On baptise, on marie en le disant. Mais cela vaut aussi pour la formule « je m'excuse ». Non seulement elle sert conventionnellement à m'excuser, mais elle désigne l'acte qu'elle sert à accomplir. Ainsi, Austin met en évidence non seulement le fait qu'un dire entraîne comme conséquence un acte, mais aussi le fait qu'un dire puisse avoir à lui-même valeur d'acte. Un acte s'accomplit dans le fait de dire. C'est ce qu'il appelle un énoncé performatif. Un énoncé performatif, c'est-à-dire un acte de parole au sens austinien, constitue l'état de choses dont il parle. Il n'est pas, en tant que tel, vrai ou faux. Il existe à l'évaluation cognitive d'un énoncé en termes de vérité ou de fausseté. Un acte de parole n'a pas à satisfaire au vrai ou au faux, pour Austin. Il est heureux ou malheureux. Il fait partie de ce que les sémanticiens, comme Hodgkin et Richards, appellent dans « The Meaning of the Meaning » les énoncés éthiques, pour lesquels il s'agit de dire de quelque chose, non pas que c'est vrai, mais que c'est bien, et qu'on l'approuve. L'acte de parole dont parle Austin concerne donc ce que Lacan appelle le bien-dire, puisque c'est un énoncé éthique. Il ne dit pas vrai, il dit bien. Il est bien-dire. On connaît la thèse de Lacan qui rejoint ici celle d'Austin et la dépasse, bien sûr. Il n'y a que le bien-dire qui satisfasse, en deux mots, qui fasse assez. À ce qui ne satisfait pas assez, ne saurait répondre que le plus en dire. C'est la thèse de Lacan dans son compte-rendu du séminaire ou pire. Elle concerne la question de comment finir une analyse. En satisfaisant, quand le dire rejoint l'acte, quand le dire s'accomplit en acte, il n'y a pas à dire plus. C'est assez. Ça n'est assez de la jouissance de la demande. Le dire, selon Lacan, est austinien. Pour Austin, les performatifs s'évaluent en termes de succès ou d'échec, de félicité ou d'infélicité. Si je dis « je te lègue ma montre », alors que je n'en ai pas, il y aura infélicité, ratage de l'acte de parole. De même, si je dis « le roi est chauve », alors que nous sommes en République. Je ne peux vous baptiser ici et maintenant, même si je dis « je vous baptise au nom du Père ». Pour qu'un dire réussisse, il y faut des conditions conventionnelles, institutionnelles. Baptiser, marier, léguer, ordonner sont des actes institutionnels avec des conditions de félicité bien particulières. Mais il en va de même pour Austin d'actes de parole aussi informels et quotidiens que j'affirme, je t'avertis, je t'assure, je te conseille, je te remercie, qui sont pour lui autant de performatifs au sens large, car c'est tout le langage lui-même qui est une vaste institution, ce qui fait que chacune de nos paroles et dans un contexte langagier donné, un acte social performatif. Telle est la thèse fondamentale de l'estime. Dire, c'est faire partie d'un discours, être partie prenante d'un discours et de ses conventions. Pour Lacan aussi, le dire ne va pas sans le discours. Mais avec Lacan, le discours n'est pas affaire de convention sociale, il est affaire de structure qui détermine un lien social. Bien différente de celle d'Austin est donc la théorie du dire chez Lacan. Il y a pour Lacan quatre discours, qui sont quatre dire secours, quatre façons de secourir le dit propre à chaque discours. Lacan veut signifier par là que le dire porte secours au dit, qui sans le discours est en péril. Ainsi, non seulement le dire existe au dit, mais il porte secours au dit grâce au discours. C'est par le discours que s'articule le lien du dire au réel, chaque discours ayant pour fonction de cerner l'impossible, c'est-à-dire le réel qui lui est propre. C'est par le discours que le dire se noue au réel. Là où Lacan va encore plus loin par rapport à Austin, c'est quand il définit le statut du dire de l'analyse dans l'étourdi, page 490. Il y pose que ce dire de l'analyse n'est efficace qu'à réaliser l'apophantique qui, de sa seule existence, se distingue de la proposition. C'est radical, car cela situe le dire hors proposition, hors les énoncés des dits. Relevons le terme d'efficace. Tout dire n'est-on pas efficace? À quelles conditions un dire, ici précisément le dire de l'analyse, est-il efficace? Porte-t-il la conséquence? Lacan répond à condition qu'il réalise l'apophantique, précisant qu'il est à distinguer de la proposition, d'un énoncé propositionnel. Il s'en distingue de sa seule existence. Il existe hors la proposition. Lacan précise encore, dans page 473 des autres écrits, que l'apophantique concerne le dire, qu'il privilégie de l'interprétation différente du dire modal de la demande. Mais qu'est-ce au juste que l'apophantique? L'apophantique nous vient d'Aristote. On le trouve dans son traité de l'interprétation où il parle du logos apophantikos. L'apophantikos, c'est ce qui peut être dit vrai ou faux, la proposition. L'apophansis affirme ou nie quelque chose de quelque chose. Si l'on s'en tient à cette acception du discours déclaratif d'affirmation, ce que dit Lacan n'est pas compréhensible. C'est même contradictoire avec l'apophantikos aristotélicien que de dire, comme le dit Lacan, qu'il est hors proposition, hors la logique propositionnelle. On ne peut saisir ce que Lacan veut dire sans se rapporter à l'interprétation que donne du logos apophantique Heidegger dans son cours de Marbourg en 1925. On lira avec profit à ce sujet le chapitre du livre de Pierre Rodrigo, professeur de philosophie à Dijon, l'Aristote, l'idéthique et la phénoménologie, intitulé Heidegger, lecteur d'Aristote. L'apophantique, pour Heidegger, est tout premièrement monstration. Il ne dit pas le vrai ou le faux. Il montre. Il montre quoi? Il montre l'horizon, comme le doigt levé du Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Il montre l'horizon au sein duquel la chose devient visible sous un certain jour. Lorsque je dis l'arbre est en fleur, je n'accole pas seulement le prédicat en fleurs au sujet arbre. Je montre l'arbre sous un certain jour, celui de son être en fleurs. L'apophantique montre, laisse voir ce dont il parle. Il fait voir à partir de lui-même ce qui se montre tel qu'il se montre à partir de lui-même. Il fait émerger ce qui autrement s'oublierait. Ce dire de Heidegger résonne pour nous avec celui de Lacan. Qu'on dit se reste oublié. L'apophantique, tel donc que l'interprète Heidegger, laisse émerger une vérité antérieure à toute proposition qui précède tout jugement. Or, c'est ainsi que Lacan distingue le dire apophantique dans l'étourdi. Il se distingue de la proposition. Sur ce point, Lacan est heideggerien. Lacan a lu Heidegger. Il connaît son interprétation de l'interprétation d'Aristote. Heidegger corrige une lecture trop scolastique d'Aristote, selon laquelle le lieu de la vérité est le jugement porté sur la proposition. La thèse de Heidegger est que le discours apophantique est monstration de quelque chose qui échappe à la proposition, à l'énoncé. Ce quelque chose qui échappe à la proposition, c'est la Letheia, la vérité heideggerienne en tant qu'elle est dévoilement. L'énoncé n'est pas le lieu le plus propre au dévoilement de la vérité. C'est ce que retient Lacan. L'apophantique se distingue de la proposition, de l'énoncé propositionnel du dit. C'est ça la proposition. Hein. C'est un énoncé qui dit le vrai ou le faux et qui a pour visée de dire la vérité. Heidegger. Dans l'étourdi, Lacan parle de sa fraternité avec le dire de Heidegger. N'oublions pas que dès 1956, Lacan a publié dans le premier numéro de la psychanalyse à côté de Benveniste sa propre traduction du texte de Heidegger intitulé « Logos », traduction que Heidegger a accepté de corriger. Heidegger y interroge à partir d'un fragment d'Héraclite la question de l'un, de ce que Lacan appellera bien plus tard l'un dire. Car s'il y a le dire de Freud, à savoir il n'y a pas de rapport sexuel, il y a aussi le dire de Lacan, qui n'est pas un qu'il n'y a pas, mais qui est un il y a de l'un. C'est de l'un qui jouit tout seul, sans l'autre. C'est cet un qu'il y a à faire venir au dire dans l'analyse. C'est cet un que montre le logos apophantique dans l'interprétation qu'a donne Heidegger. Le logos apophantique, le doigt levé de Saint Jean-Baptiste, ne montre pas l'autre. Il montre l'un tout seul, radicalement séparé de l'autre. Nous avons à nous mesurer à l'un, au dire de l'un, car le logos, selon Heidegger, n'est ni la raison ni le verbe. Il est le dire de ce qui reste oublié par celui qui parle. Pour dire ce qu'est le logos, Heidegger se sert de l'étymologie. Logos qui vient du grec legain, qui signifie dire, parler, raconter, mais aussi et avant tout mettre à reposer, coucher, étendre, qu'il associe au legen allemand, qui signifie poser, coucher, mettre au lit, et au legere latin, qui signifie lire, et aussi recueillir, ramasser, récolter, ou encore choisir. Pour être en entente avec ceux qui parlent, nous avons à recueillir ce qui se lit du logos. Mais dans sa propre traduction, Lacan va puiser dans le trésor de la langue française deux autres mots, le lex et le lait, qui désigne le L-A-I-S, qui désigne une sorte de poème laissé en testament, mais aussi un territoire formé des alluvions laissées par la mer quand elle se retire et que les hautes eaux ne recouvrent pas. Le logos, c'est le legs, le don que nous fait la langue et qu'il nous revient d'accueillir. Il est, traduit Lacan, le pur lit de ce qui se lit dans ce qu'il recueille. Il est, traduit encore Lacan dans une formule toute en allitération, le lait ou ce lit, ce qui s'est lit et n'est que cela. Le logos, c'est cela, le dire qui s'est retiré, déposé, oublié et qui fait le lit à ce qui se lit dans ce qui s'est lit. Or, n'est-ce pas ce qu'il s'agit d'élire dans l'analyse ? Élire, privilégier le dire de l'un qui est seul dans sa jouissance, seul dans sa signifiance, sans l'autre qui lui donnerait sens.